Étude sur Cantique, Olivier et l'autre Laurent.
Je te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur.
Salut à l'Église de Dieu qui est allumée, à tous les saints de par le monde entier. Je suis encore dans la joie de savoir que vous êtes à l'écoute de cette émission Étude sur Cantique. Je suis avec notre bien-aimé frère Laurent qui est de l'autre côté du studio. Bonjour Laurent et merci d'être avec nous pour cette émission. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Olivier.
Comment as-tu passé la semaine, comme d'habitude?
Bon, je ne me plains pas, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits et sa présence, aussi bien que sa protection dans ma vie et dans celle de ma famille.
Voilà. Vous savez très bien, auditeurs et auditrices, que Laurent est avec nous dans ce studio pour commenter par la grâce de Dieu la chanson que nous étudions au cours de l'émission. Mais avant d'en arriver là, je vais te faire écouter l'autre Laurent, un chant, et tu me diras après l'avoir écouté si tu le connais ou pas. Es-tu prêt? On va y aller. Si tu es prêt, l'autre Laurent, on va y aller.
Ok. Oui, ça va.
Ok, on va y aller, on écoute la chanson. Et juste après, on verra.
Yeah.
Alors, Laurent, connais-tu la chanson?
Non, mais j'ai comme l'impression que je l'ai une fois écoutée dans les années...
Dans les années 90?
Non, c'est la partie où la dame était en train de... La partie, il y a une partie là où... Mmh. Elle était en train de dire que le monde
ne lui a rien donné.
Oui, elle parlait de vanité, tout ça là. Bon,
ouais.
À première vue, ouais. On aura l'impression que c'est une chanson de la famille Abour, mais le rythme et les voix ne sont pas les mêmes. Donc, disons que, pour être honnête, si on me demandait si je l'ai une fois. Si je connaissais cette chanson, je dirais a priori non, parce que connaître veut dire être au courant de ce qu'il y a dedans et ce qui est dit. Oui.
Ok, très bien. Ok, bon, néanmoins, la chanson remonte au début de cette radio.
Ok.
Oui, elle remonte au début de cette radio et c'était une des chansons qui nous accompagnait à notre début de conversion. Et quand tu l'écoutais à l'époque, on était marqué. Et on recevait le message qui était communiqué par cette chanson-là. Mmh. Alors, l'autre Laurent, quel est le titre de la chanson?
Le titre, c'est « Ce monde ne m'a rien donné ».
Oui, tu disais tout à l'heure que ça semble ressembler à la famille Abou. Alors, qui sont ceux-là qui l'ont chanté?
Bon, disons que cette chanson est l'œuvre de Dominique et... En réalité, Dominique, c'est lui qui a composé la plupart des chansons du groupe.
Ouais.
D'accord. Donc, Dominique Fontaine, avec son épouse Elsbeth, ont commencé leur carrière musicale en compagnie d'un autre couple, Eduardo et Ursula Chino.
Hmm.
D'accord. Et Eduardo est le beau-frère de Dominique.
Ok.
D'accord. Donc, disons, commencer ensemble. Et ils ont fait sortir une première cassette audio intitulée Dieu veut t'aider. D'accord. Et comme le dira plus tard Dominique, dit c'était une idée de mon beau-frère Eduardo et on ne pensait produire qu'un seul album. C'est-à-dire que pour eux, bon, on le fait puis on laisse tomber. Et la femme. Ouais. De Dominique de dire, à cette époque, il était difficile de trouver de bons musiciens chrétiens. D'accord? Nous avons donc décidé de nous faire accompagner par des musiciens professionnels, sans lien particulier avec la foi chrétienne. Donc c'est comme ça ils ont débuté.
Oui, elle a précisé bien qu'à cette époque, il était difficile de trouver de bons musiciens chrétiens.
Donc, à partir du deuxième album, le groupe a pris le nom de Jude 25.
Ok.
Jude 25, quand on le lit, là, il est dit « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. » Donc là, c'est le dernier verset de l'épître de Jude. Et il faut le dire, il faut le rappeler, Jude est l'un des demi-frères du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est le fils à Marie, Joseph, tout comme l'apôtre Jacques, celui qui a écrit l'épître
de Jacques
est le fils de Marie et Joseph. Donc, il ne faut pas vous accrocher à la tradition religieuse. Marie, après la naissance de Jésus, qui était son premier-né, son fils premier-né. Vous voyez, quand on lit en français, là, on dit premier-né, ça veut dire qu'il y aura d'autres enfants. Donc, Dieu, là, il n'est pas un dictateur, il vient te dire, ok, je veux que mon fils vienne dans ce monde par toi, et puis, allez, il va briser le couple de Joseph. Non. Donc, Marie a eu des enfants. Donc, c'est un des frères de Jésus, Jude, qui a écrit cette épître. Et il a rédigé en l'an 60 après Jésus-Christ. C'est une lettre très courte qui est un appel à la mobilisation contre des pratiques sournoises qui s'infiltraient dans l'église, dans la première église. D'accord? C'est des rappels qui sont importants pour nous aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, regardez autour de vous et vous verrez qu'aujourd'hui on est dans une situation vraiment désastreuse. Hein. Quand on parle de christianisme et qu'on lit les écritures et on regarde les pratiques, les choses qui se font, la situation est terrible, la situation dans laquelle nous sommes. Donc, peut-être si Jude vivait aujourd'hui et envoyait cette épître-là, il va prendre des coups parce que les gens qui se sont positionnés comme étant les tout-puissants dans le corps de Christ n'accepteraient pas qu'on remette en cause leur autorité. Donc le groupe était au début deux couples.
C'est la famille, hein.
Ouais, bien sûr. La plus tard, deux familles.
Oui.
Et bon, par finir, c'est Dominique et Elsbeth qui ont continué leur parcours en duo. Et là, dans mes recherches, des questions ont été posées, à savoir comment est-ce que Dominique s'y prenait pour ce qui concerne la composition. Et là, il dit que le test biblique prime sur la musique. D'accord? Et il dit, lorsque je compose, je trouve plus facilement la musique que les paroles. Souvent, il me faut des semaines pour dénicher le bon mot ou la bonne rime. La musique est écrite et elle est créée d'un message précieux, celui de l'Évangile. Et il faut le rappeler, c'est un pasteur, et en même temps artiste, musicien donc, il dit que la musique doit accompagner véritablement les chrétiens dans leur vie pratique. Et il milite pour une grande diversité de chants dans les églises. Quand la question lui est posée, que pense-t-il de la louange, il dit, la louange est devenue un truc pour demander à Dieu de nous rejoindre, alors même qu'il vit déjà en nous. Constate Dominique, hein, il dit, nous planons, nous récitons nos mantras et nous cherchons à ressentir quelque chose que nous nommons présence de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de chants de proclamation en lien avec l'œuvre de Dieu et la vie chrétienne. Hein, les joies que l'on ressent en tant que chrétien, les difficultés, les exaucements et les combats. Et sa femme de renchérir en disant, dans les moments difficiles de la vie, le chant est comme une prière et un message fortifiant. On a cru que la louange suffisait et on découvre que ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà leur vision de l'œuvre musicale par rapport à la vie chrétienne.
Oui, très bien. Le chant est composé d'un refrain et de deux couplets. Est-ce que là, on peut aller à la découverte des lyrics de cette chanson-là?
Oui, je vais le faire. Là, je commence. Ce monde ne m'a rien donné. Il ne peut rien m'enlever. Pourquoi vouloir s'accrocher à toutes ces vanités? Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Ça, c'était le refrain. Premier couplet. Pendant bien des années, j'ai voulu profiter de tout ce que le monde m'offrait. J'ai goûté au plaisir, mais sans satisfaction. Je m'étais fait beaucoup d'illusions. Je n'ai vraiment trouvé ce que je désirais. Quand Jésus-Christ m'a tout apporté, tu sais, ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Deuxième couplet. S'il ne m'a rien donné, je ne peux pas m'attacher à ce qui va partir en fumée. Bien des gens passent leur temps à bâtir leur trésor comme s'ils vivraient éternellement. Mais moi, toute ma vie, je veux la dépenser pour celui qui m'a tout apporté. Tu sais, ce monde ne m'a rien donné. Il ne peut rien m'enlever.
Yeah.
revenons dans cette émission, l'hôte Laurent, pour entamer la partie commentaire de cette émission. L'hôte Laurent, est-ce que vraiment ce monde ne nous a rien donné?
Alors, là, je vais m'intéresser d'abord à la définition du monde, pour que nous puissions avoir une idée claire de ce concept. Donc, dans la Bible, quand on parle du monde, c'est premièrement l'univers. D'accord? C'est le monde créé par Dieu. Les cieux et la terre sont l'œuvre de Dieu. Et c'est cet aspect-là que le Nouveau Testament désigne par le mot cosmos. Donc, Dieu a créé par sa puissance, par sa parole, jusqu'aux atomes de la poussière du monde. C'est Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. D'accord? Et là, sous cet angle, ce monde est le bien de Dieu, la propriété privée de Dieu. Ça lui appartient. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, quand la Bible parle du monde, il veut parler de la terre habitée. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier. D'accord? À commencer par Jérusalem, ça va aller jusqu'aux confins de la terre pour toucher toutes les nations. Donc c'est la terre habitée. Troisième, c'est l'humanité que Dieu aime et que Dieu voudrait sauver. D'accord? Donc là, tout le monde connaît Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est le monde là dont il est question. Alors, quatrième élément, le monde signifie le système. Système de ce monde-là, pécheur et mauvais, qui se détourne de Dieu et refuse et rejette la grâce de Dieu. C'est le milieu où le mal est entré par la chute d'Adam et Ève, et dans ce cas de figure, tous les pécheurs marchent selon le train de ce monde, selon l'influence de ce monde, selon le rythme de ce monde, selon l'orientation de ce monde, la philosophie de ce monde. Et par conséquent, le monde entier est sous la puissance du prince de ce monde, de la puissance du malin. Là, il faut bien que nous comprenions ces choses. Maintenant, autre aspect, quand on parle du monde, ça, on parle également du siècle présent. Le siècle présent, c'est-à-dire, quand on parle du siècle, on veut parler de l'âge, on veut parler de période de temps, de siècle. Donc, là, l'expression siècle présent, déjà, sous-entend qu'à un moment donné, ça cessera d'être siècle présent. Et le dernier élément, quand on parle du monde, c'est l'autre monde. D'accord? C'est le siècle à venir. Ça, c'est le monde qui sera introduit au travers le règne millénaire de Christ. Maintenant, de quoi est-il question dans le texte? Quand l'auteur parle du monde, il veut parler du monde comme système impie. D'accord? Qui rejette Dieu et sa parole, qui refuse de se soumettre. Pourquoi l'instigateur de ce monde-là s'est rebellé? C'était un ange de haut rang qui s'est rebellé et il a trouvé des compagnons. Et donc, comme ils se sont rebellés, tous ceux en qui ils arrivent à pénétrer, tous ceux en qui ils résident, tous ceux qu'ils arrivent à influencer, ont quelque chose en commun, la rébellion. D'accord?
Oui.
Donc là, l'auteur est en train de parler de ce monde-là. Maintenant, si on me demande quelle doit être l'attitude du croyant vis-à-vis du monde, premièrement, c'est la séparation. Le chrétien est appelé à se séparer d'avec le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des souillures dans le monde. Et ces souillures-là nous parviennent, nous entrons en contact avec les souillures du monde par le biais des convoitises de la chair, convoitises des yeux et bon, l'orgueil de la vie. Donc, notre nature déchue est plus habilitée à contacter le monde que la nature que Dieu voulait avoir pour lui-même, la nature récréée. Donc, en tant que chrétien, si nous ne veillons pas sur notre vie, nous allons nous souiller. D'accord?
Oui.
Donc, maintenant, si nous nous séparons d'avec le monde, que faut-il faire? Mais il faut aller en mission. Tout en étant séparés d'avec le système de ce monde, nous allons à la recherche des gens qui sont encore sous le contrôle de l'esprit de ce monde. Donc, en résumé, c'est le monde impie, rebelle à Dieu et à sa parole, qui est sous l'influence des puissances des ténèbres. Ce monde offre la souillure, la corruption morale et spirituelle, et dont la conséquence est la damnation éternelle loin de la face de Dieu. C'est de cela qu'il est question.
Oui, d'accord. Maintenant, l'autre Laurent, la question, est-ce que ce monde ne nous a vraiment rien donné.
Oui, dans le cadre de la chanson, oui. Ce qu'elle est en train de dire, ce monde ne m'a rien donné de positif.
Oui.
D'accord?
Ok.
Si vous vous embrassez le diable, vous ne vous en tirerez pas en étant pur. Puisqu'il a souillé.
Oui.
Vous lui faites un accolade, vous allez prendre de sa souillure. Si vous touchez le monde par ce que vous voyez, par les cinq sens, si vous touchez le monde par un quelconque des sens que vous avez, vous ne repartirez pas en étant le même, vous serez souillé. De l'autre côté, si vous entrez en contact avec Dieu, vous serez positivement influencé. Ah, c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on vous dira, voilà, ce qui est consacré à Dieu est saint, ce que ça touche est sanctifié. D'accord, on n'a pas le temps pour que j'explique tout cela. Donc, sous l'angle de ce que l'auteur est en train de dire, ce monde-là, je ne suis pas redevable au monde. En fait, c'est ce qu'elle veut dire.
Ok.
Je ne suis pas redevable au monde.
Très bien. Alors, on essaie de comprendre, on est dans cette optique-là. Bon, si réellement ce monde ne lui a rien donné, elle n'est pas redevable au monde, c'est ça. Maintenant, comment se fait-il que dans la première strophe, la sœur déclare que pendant des années, elle avait voulu profiter de tout ce que le monde lui offrait. Comment se fait-il qu'elle dise ça?
Oui, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est le schéma classique avant la conversion. Avant la conversion, nous n'étions même pas conscients de la présence de ces puissances des ténèbres, de leur influence sur nos vies. D'accord? L'homme naturel, animal, est dirigé par ses cinq sens, en plus de son âme, ce qui fait que il est très facilement manipulable par les puissances des ténèbres. Ici, l'auteur est en train de faire, c'est après une introspection, c'est-à-dire une investigation de ses pensées intérieures, de ses sentiments, après un examen rétrospectif, l'auteur maintenant parvenu à cette conclusion-là. Pourquoi? Parce que l'homme animal et impie fonctionne par son âme et son corps. D'accord? C'est de cette façon-là, avant la conversion. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils persistent dans le mal, leur cœur s'endurcit. Ça, c'est Éphésiens 4, verset du suite. Mais si nous replongeons notre regard dans l'Ancien Testament, on entendra le sage, Salomon, qui va nous dire, tout ce que mes yeux avaient désiré, la vue, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. Vous entendrez des gens vous dire, écoute, la vie est courte, il faut en profiter. Il y a des gens qui disent ça, n'est-ce pas? On ne vit qu'une seule fois. Oui, qu'une seule fois, mais on vit de l'autre côté aussi pour l'éternité. Alors d'autres vont vous dire, il faut profiter de la vie, la jeunesse là, il faut pas badiner avec. Donc c'est comme si on veut tout faire pour avoir des souvenirs de comment on a bien tiré le meilleur de ce monde. En réalité, l'Ecclésiaste va dire à ce groupe là, des jeunes surtout, avec l'exubérance de la jeunesse, il y a Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, jeune homme ou jeune fille, hein, ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Parce que c'est ce que lui-même venait de dire, n'est-ce pas? Quelqu'un en lisant va se dire, oh, la Bible, c'est un bon livre. Voilà comment la Bible est en train de me donner des conseils pour me livrer à la volupté. Mais non, on va suivre la suite. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce verset est en train de nous dire, après cette vie, il y a une autre vie. D'accord? Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc tu vois, quand on prend ça et on remonte maintenant vers l'auteur, on comprend alors que elle est passée par là. D'accord?
Okay.
Elle a cru tirer le meilleur de ce monde, mais ce n'est qu'après la conversion qu'elle se rend compte que elle vivait dans l'illusion. Pourquoi? Parce que rien de bon ne vient de ce monde impie. La satisfaction que l'on éprouve est une satisfaction éphémère. mais en réalité mortel. Pourquoi? Tu sais, le poison est mortel, mais rien ne nous dit que le poison est amer. Parce que si quelqu'un prenait du poison et que c'est amer, la personne va rejeter. D'accord? Donc, ces plaisirs-là, ces satisfactions du moment, on a l'impression que c'est ce dont nous avons besoin. Mais après, il y a un vide-là qui est toujours là. Parce que c'est ce vide-là que nous cherchons à combler. Donc, là, comprenez que ce monde nous dépouille de la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Donc, tous ceux qui viennent dans ce monde viennent nus sur le plan spirituel. Physiquement, il n'y a personne qui vient au monde habillé, d'accord? Physiquement. Mais spirituellement, tout le monde est nu en venant dans ce monde, dépouillé de la gloire de Dieu. Et là, nous sommes maintenus dans cet état, loin de la face de Dieu. Et là, on est dans les bras des démons. Lorsque les esprits des ténèbres possèdent une personne, ils lui communiquent une nouvelle personnalité. Voilà pourquoi les gens ont tendance... Si tu remarques bien, et ça c'était plus prononcé auprès des femmes, ont tendance à la nudité, tendance à exposer les parties sensibles de leur être, tendance à la dégradation morale. Hein? Les hommes aussi maintenant sont rentrés dans ça. Bon, en Afrique ici, on traîne un peu les pas, mais ça viendra parce que c'est le signe de fin des temps. De l'autre côté de l'océan, des gens, un homme se lève un jour, change de sexe, une femme se lève un jour, change de sexe. Et maintenant, ça va jusque dans les milieux pédagogiques où on dit aux petits enfants, à la maternelle, ce n'est pas parce que tu es un zizi que tu es un petit garçon. Si tu veux, tu peux toi-même aussi choisir d'être une femme. Quand on commence par ça, logiquement, on va dire oui, mais ça semble être ceci. Mais en réalité, on ne voit pas les esprits qui sont derrière. Parce que l'objectif de ces esprits, c'est de pousser l'homme à s'avilir davantage et de l'amener à se rebeller contre son créateur. Donc, là, l'auteur, étant passé par là, s'est arrêté, a fait une introspection, à ses conclusions, dit, mais comment? Avec tout ce que ce monde-là m'a fait, après ma conversion, je vais retourner encore pour reprendre les anciennes choses. Donc c'est là, dans cette déclaration, on sent qu'elle a tourné dos au monde, une fois pour deux fois.
Très bien. Mm-hmm. C'est vraiment clair et je constate dans la première strophe qu'elle dit quelque part qu'elle a goûté au plaisir. Les plaisirs constituent des choses que le monde peut nous offrir. Hein,
bien sûr, bien sûr.
En n'étant pas encore chrétien.
En n'étant pas chrétien, oui, bien sûr.
Et quelque part, elle dit, juste après, elle dit, je m'étais aussi fait beaucoup d'illusions. Mm-hmm. Je fais beaucoup d'illusions. Mm. En étant dans le monde, c'est les illusions que le monde également peut nous offrir.
Ouais.
On nous présente des choses, des merveilles, mais en réalité, derrière, c'est pire que ça.
Ouais.
Hein, c'est ce que le monde peut nous offrir.
Bien sûr.
Mais elle a fait dos à tout cela. Et elle dit... je n'ai vraiment trouvé ce que je désirais. Mmh. Et quand Jésus-Christ m'a tout apporté, tu sais, ce monde ne m'a rien donné. Elle a vu cela comme Paul. Hein?
Oui, bien
Paul,
sûr.
Paul qui dit que le verset, là, ça m'échappe un peu.
Philippiens, chapitre
3. Oui, Philippiens, voilà, il dit qu'il considère toutes choses comme étant
de la boue.
De la boue.
Mmh.
Voilà, c'est ce qui lui est arrivé.
Pour Paul, c'est en rapport avec le fait qu'il soit juif. Hein, oui, de par sa naissance et puis les privilèges que lui confère le statut de juif. Et tu sais, lui, il avait une double nationalité. Juif et puis il est roumain. Et donc il peut par moment s'appuyer sur ça. C'est quoi parfois quand on lui fait du mal, là il peut dire aux soldats, je suis un citoyen roumain, vous me mettez en prison sans que j'ai eu droit à un bon procès équitable. Donc vous voyez un peu, mais de l'autre côté quand il se trouve avec les juifs, il leur parle en tant que juif. Donc il a joué sur les deux tableaux à chaque fois, non pas parce qu'il était rusé, mais il était conscient de ça. Mais il s'est dit, quand je prends tout ça là, je compare à la révélation que Christ m'a donnée et la possibilité d'approfondir cette révélation, je peux faire perdre ces choses pour être plus à même de recevoir de la révélation de Dieu. Et Dieu merci, il l'a fait. Voilà pourquoi il a été l'un des apôtres qui avait un aperçu, une perspicacité digne d'un apôtre. Hein. Quand vous comparez Paul et Pierre, vous allez voir la profondeur de la compréhension que l'apôtre Paul a de ce que le Christ est venu faire, même de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Quand quelqu'un fait ce pas avec Dieu, la personne ne veut pas se souiller en retournant vers le monde, parce que le monde n'offre rien de bon, de glorieux, de noble et qui nous permet de nous sentir meilleurs. Le monde dégrade votre personnalité.
Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Pourquoi vouloir s'accrocher à toutes ces vanités? Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. L'autre Laurent, qu'est-ce que ce monde nous donne concrètement?
Bien, le monde, comme on l'a déjà expliqué, nous propose la satisfaction des plaisirs qui s'offrent à nous. C'est comme c'est gratuit. D'accord? C'est la même chose quand vous retournez dans le livre de Genèse, dans le jardin, c'est le même schéma qui a été proposé
à Ève.
Ah oui, bien sûr, c'est le même schéma. On lui a le serpent lui a proposé des plaisirs insoupçonnés, des découvertes, de nouveaux horizons, une façon de dire, écoute, si tu es avec Dieu là, ce sera monotone, tu n'auras pas la possibilité de faire des aventures.
C'est ce que les gens disent, hein. Bien
sûr.
Quand on est en Christ là, tout est
que monotone, qu'on est malheureux,
on n'est pas de c'est exactement ça.
Oui, bien sûr.
Exactement.
Bien sûr.
Okay.
Pourquoi? Parce que souvent c'est des gens qui soit c'est des religieux qui disent ça. Mais si tu as une foi
dynamique,
oui, et qui te donne d'accéder à ce que l'homme naturel ne peut pas avoir. Si tu as une fois écouté le juste, comme Ananias l'a dit à Saul de Tarse, si Dieu t'a accordé la grâce d'écouter la voix du juste, le Christ glorifié, si Dieu t'accorde la grâce d'entendre l'Esprit parler, si Dieu t'accorde la grâce de voir ce que l'homme naturel ne peut pas voir. Le livre de Dieu, tu lis, tu découvres ce que normalement on ne peut pas découvrir. Si tu as une foi, été conscient que tu n'es pas seul, que quelqu'un réside en toi et qu'autour de toi, tu fais l'objet de la sollicitude de Dieu, au point même qu'il a dispatché, si vous permettez l'expression, des anges autour de toi, qu'en réalité, tu n'es pas seul. Si tu expérimentes la présence manifeste de Dieu, la véritable, là, en ce moment, quand quelqu'un vient te dire que quand on est avec Dieu, c'est monotone, c'est morose, c'est maussade, c'est on est malheureux, ça va te faire sourire, tu vas dire, l'expérience fait la différence. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas qui Jésus est. Maintenant, mais si c'est juste pour souscrire à des propositions, demandes religieuses, là, en ce moment, là, vous pouvez tomber dans ce travers en disant, oui, c'est vrai, hein, et chaque fois, il faut aller à l'église, il faut ceci. Non, si aller à l'église veut te dire, de rencontrer Dieu, là, en ce moment, tu verras que vous, rencontrer Dieu sera pour toi, et tu sais, avec enthousiasme. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu vois un peu? Mais aujourd'hui, il y a des lieux qu'on appelle maison de l'Éternel, qui en réalité ne sont pas maison de l'Éternel. Qui sont l'antre des démons. Parce que quand vous allez là-bas, ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui s'enseigne, ce qui se manifeste là-bas, c'est le monde dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas avoir une cohabitation du diable, de l'esprit de sirène, des esprits des ténèbres, avec le Saint-Esprit à côté. Donc, quand quelqu'un joue un peu sa partition, l'autre dit, ok, c'est mon tour. Il n'y a pas ça. Dans l'église, dans les, ok, quand tu le suis passe, c'est le diable qui se manifeste. Quand il finit, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui dit, non. Non, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si les deux et les trois sont véritablement nés de l'esprit, donc il sera là. Et ils sauront qu'il est là. Donc ici, quand le plaisir, père parle...
On a parlé des plaisirs au début.
Des plaisirs, bien
maintenant,
sûr.
Maintenant, autre aspect, que ce que le monde nous donne concrètement, on y va.
Donc là, bon, le plaisir c'est quoi? C'est les satisfactions momentanées, la jouissance. Et là, dans ce cas de figure, on se dit, qu'importe la source. Je ne veux pas savoir quelle est la source. L'essentiel est que j'expérimente, que que toute ma personne soit emportée par ce moment sublime là. Et ce qui compte, c'est la sensation du moment. C'est ce que la Bible appellera les convoitises, un désir avide d'appropriation par tous les moyens. Alors on va écouter un des apôtres, celui qu'on prendrait pour le plus doux des apôtres, le plus calme des apôtres.
J'imagine.
Le vieillard, et qui parle avec une voisine. Ok, Jean, apôtre Jean, qu'est-ce que tu penses de qui nous sommes aujourd'hui? 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ici, ce n'est pas un sujet à débat, c'est un ordre. N'aimez point le monde impie, contrôlé par le diable, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Ces choses viennent de lui. Si quelqu'un aime le monde malgré ce qu'on lui a dit, et cette épître-là est envoyée aux chrétiens. Si un pasteur aime le monde, un évangéliste aime le monde, un apôtre aime le monde, un prophète aime le monde, un docteur des Écritures aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire quoi? Si l'amour du Père n'est point là, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus là, puisque l'amour du Père a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc si l'amour du Père disparaît, le Saint-Esprit n'est plus là. C'est-à-dire la gloire de Dieu n'est plus là. L'Esprit, la présence de Dieu n'est plus là. Donc maintenant, en ce moment, dans la vie de telle personne-là, c'est une invasion, un envahissement des ténèbres qui contrôle maintenant la vie. Donc de cet individu, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, maintenant va expliquer. La convoitise de la chair, ça c'est un. La convoitise des yeux, ça c'est deux. Et l'orgueil de la vie, tout ça là, tout ce qui est, tout cet ensemble là ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce monde que nous ne devons pas aimer. Donc c'est le même schéma. Dans le jardin d'Éden, même schéma. Dans le désert, même schéma. Donc quand vous lisez, vous allez voir que dès les propositions faites par l'ennemi, c'est toujours le même schéma. Ce qu'il a fait à Ève et le couple est tombé, c'est la même chose qui a été proposée à Jésus sous une autre forme, mais l'idée est toujours là. Donc aujourd'hui, les tentations que les gens ont eues au Moyen-Âge seront différentes des tentations que nous avons aujourd'hui. Mais le schéma est là. L'esprit, c'est toujours l'accent sur la convoitise de la chair, la satisfaction de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Mais le monde passe. Quand le monde passe avec ses victimes. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, donc ici, là on comprend que le monde est dangereux. Le monde dont nous sommes en train de parler est dangereux pour le chrétien. Timothée 5, verset 6, il dit, parlant des veuves, elle dit, celle qui vit dans les plaisirs. C'est quel type de plaisir? Les plaisirs de la chair. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Donc celle qui vit dans les plaisirs est morte. Quoique vivante, physiquement vivante, mais spirituellement morte. Cette veuve dont il est question ici est une chrétienne qui, par la force des choses, s'est retrouvée veuve. D'accord? Maintenant, de l'autre côté aussi, un veuf, on veut parler d'un chrétien qui a perdu son épouse, mais n'a pas la force des choses, devenu veuf. Maintenant, le problème c'est que la personne vit maintenant dans les plaisirs. Les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, les satisfactions momentanées. Mon mari n'est plus là, mon épouse n'est plus là. Qu'est-ce que je fais pour me tenir compagnie? Il y a le monde t'offre, hein. Il y a des bibelots qu'on t'offre, tout ça là. Et donc il dit, quand tu le fais, tu es mort. Quoique quand les gens te rencontrent, tu es vivant. Donc spirituellement, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a de très belles chansons qui nous parlent de la grâce de Dieu, n'est-ce pas?
Oui.
Ce dont tu n'as pas naturellement droit, t'est offerte. Ou bien je me trompe. Il y a des chansons comme ça qui dit oui, la grâce de Dieu c'est quoi? Tu ne mérites pas ça et on te donne. Et les gens chantent, les gens sautent. Hein? Oui, ça c'est vrai. Mais cette grâce-là, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Et la grâce de Dieu te dit, quand je te donne ce dont tu n'as pas droit, tu as une responsabilité. Et ça, la chanson n'en parle pas. Quand on aura fini de sautiller, de se contorsionner sur le rythme de telle chanson, après maintenant, la Bible te dit, viens, on va t'expliquer la grâce. Titre chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça, c'est ce monde, ça. Ce monde. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Si la grâce te propose quelque chose pour que tu sois mieux loti et que tu ne renonces pas à l'impiété, aux convoitises mondaines, là, cette grâce-là ne t'a pas été profitable. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Pourquoi? Parce que tu attends l'enlèvement que la Bible appelle ici la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Frères et sœurs, c'est ça ce dont il est question. Donc, quand vous avez ce plaisir-là, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que non, oui, avant, on était très consacrés et on aimait Dieu, et voilà, Dieu, donc, par voie de conséquence, nous a bénis, et maintenant, nous sommes mieux cotés en société. Donc, le plaisir auquel on n'avait pas accès avant, parce qu'on était, on avait une consécration sauvage du genre d'Élie, du genre de Jean-Baptiste, maintenant que nous sommes mieux cotés en société, livrons-nous au plaisir. Et c'est en ce moment que les gens se laissent emporter et oublie que ce monde dont il est question ici ne pardonne pas. Si tu donnes ton doigt au diable, il te prendra l'épaule et il va t'enlever du royaume de Dieu. Donc c'est de cela qu'il est question. Pour te préserver, la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Il n'y a rien de plus troublant que de parler d'un chrétien mondain, d'une chrétienne mondaine. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a plein de gens qui sont des païens modérés, mi-païens, mi-religieux. Donc c'est des païens modérés. Mais ils ne sont pas dans le royaume. Et ils ont besoin de retourner aux Écritures. Si quelqu'un fait la promotion du monde en vous disant que Dieu vous bénit pour que vous soyez mondains, vous savez que l'Esprit là, ce n'est pas le Saint-Esprit.
À ceux qui veulent partir en fumée, bien les gens passent leur temps à bâtir le présent comme s'ils vivaient éternellement. Mais moi, toute ma vie, je veux la dépenser pour celui qui m'a.
Bien, notre Laurent, on va aborder la deuxième étrophe dans cette émission. Et là, elle commence. Ce deuxième couplet de cette façon, si le monde ne m'a rien donné, je ne veux pas m'attacher à ce qui va partir en fumée. Mmh. Que faut-il en dire?
Oui, mais là, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'elle comprend que le monde ne lui doit rien. Donc, pourquoi elle va s'attacher au matériel? Parce que c'est le matériel que le monde propose.
Oui.
Et pour certains, à un niveau plus avancé, le monde propose un meilleur accès à des réalités spirituelles. Mmh. Voilà pourquoi les gens se livrent à la sorcellerie où ils vont surfer dans le monde astral. Pour eux, le monde astral, c'est le monde de Dieu. Non, le monde astral, c'est un monde déchu. C'est un monde qui essaye de vous représenter la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Comme ces anges sont déchus, ils ont créé ce monde dans lequel ils pourraient vivre. Mmh. N'oubliez pas, tout ce qui existe tient sa source en Dieu. Mais ce qui se sépare de Dieu n'a plus la force de subsistance. Voilà pourquoi les esprits, pour pouvoir subsister, ont besoin de consommer la chair humaine et le sang humain. C'est pour cela qu'on initie les gens, on les amène toujours à faire un sacrifice. D'accord? Parce que ces esprits-là ne peuvent plus tirer leur subsistance de Dieu. C'est bon? Oui. Bien, maintenant, là, ce qu'on est en train de dire, tout à l'heure, on a parlé de ce monde qui passe, et vous savez, les apôtres, en leur temps, étaient conscients de l'existence des réalités spirituelles. Hein. Ça, tout à l'heure, j'ai lu l'épître de l'apôtre Jean. D'accord? Oui. N'oubliez pas, les apôtres ne s'étaient pas concertés entre eux en envoyant leurs épîtres. Écoutons Paul, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Pourquoi? Car la figure de ce monde passe. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, écoutez, ce que vous voyez là, hein, c'est passager, c'est éphémère. Ça va disparaître tout à coup. Donc, ne vous accrochez pas à ces réalités-là. Et la Bible même présente la vie humaine comme étant une vie hétéroclite, quelque chose qui ne tient pas dans le temps pour plusieurs personnes. Là, il sera dit ceci dans Jacques chapitre 4, verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. D'accord? L'Ecclésiaste, lui aussi, va dire la même chose. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Voici, tout est vanité, poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. C'est pour cela que Jésus dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Parce que ce qu'on croit gagner est physique. Ce qu'on croit gagner est matériel. Alors qu'au-delà de ça, il y a l'autre vie. Et vous êtes perdant dans l'autre vie. Vous êtes très élevé dans cette vie-ci, mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas retourner votre créateur. Donc, c'est important de comprendre, parce que ici, l'auteur met l'accent sur cet aspect-là. D'accord? Il y a des gens qui s'accrochent bec et ongles à ce monde, à ce qu'on... Non! Chaque week-end, la vie est là pour nous enseigner. Chaque week-end, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, au-delà des océans, mais en Afrique, chaque week-end, les gens vont aller enterrer quelqu'un. C'est devenu comme ça de rituel. Chaque week-end là, on va aux enterrements, n'est-ce pas? Et il était brillant en ville. Après, on ira déposer son cadavre au village. Et après, on dépose, on retourne. Et personne ne se dit, donc c'est fini comme ça? Non, c'est momentanément qu'on pense que, l'autre est mort. On a l'impression que nous, on ne mourra jamais. Je crois qu'il en sera question dans la suite de l'émission.
Exactement. Mmh. Tu vas encore nous expliquer le vers qui suit. Il dit, bien des gens passent leur temps à bâtir leur trésor comme s'ils vivraient éternellement.
Mmh. Oui, mais ça c'est tout à fait évident. Parce que souvent... on a l'impression que le malheur ne peut qu'arriver
qu'aux autres.
Aux autres. Pas à nous. Quand quelqu'un meurt là, on ne se dit pas que non. La mort est en train de dire, chef, tantôt je suis pas loin de toi. Oh.
Tantôt viendra.
Non, c'est les autres qui meurent. C'est pour les autres que l'enterrement aura lieu. Pour nous-mêmes là, on est toujours là. Comme on s'est endormi hier, on s'est réveillé ce matin, on va toujours s'endormir et se réveiller. Donc, quand bien même, ceux avec qui on a vécu, étant jeunes, là, on les a vus partir, on est dans l'illusion de croire que nous là, on est quoi? On est éternel. Quand l'homme se développe, à un moment donné, il est conscient de son corps. Les jeunes femmes sont conscientes de leur beauté, voilà pourquoi elles passent plus de temps devant le miroir. Le jeune homme est conscient de sa force physique, voilà pourquoi vous allez voir dans les salles de gym pour avoir les biceps bien assortis et bien mis en évidence, parce que pour lui, ce qui fait de lui sa personne, c'est la force physique. La femme, ce qui fait d'elle femme, c'est la beauté. C'est là pourquoi elle va aller à la recherche des phares, des enjoliveurs et tout le reste. Partout sur la planète là, vous allez voir des femmes qui passent des heures devant des miroirs parce que elle veut être belle. Même si le temps est en train de dire, après 50 ans, elle est ride. On fait tout pour mettre des choses là, pour combler ces rides là. On se convainc qu'on est là pour toujours. L'auteur est en train de dire, c'est pas vrai. Parce que c'est la façon de vivre là qui montre que cette personne pense qu'elle sera là éternellement. Quand bien même son oncle n'est plus là, son père n'est plus là, sa tante n'est plus là, sa mère n'est plus là, son frère n'est plus là. Donc, autour de nous, nous avons des signaux qui nous disent, attention, tu peux être le prochain. Tu vois, Il y en a même qui sont allés jusqu'à faire des alliances. Hein, quand on va lire Isaïe 28, verset 15, qui dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Donc, là, dans la perspective de ne pas disparaître de ce monde-là, les gens font alliance avec le séjour des morts. Il y a certains qui pensent que non, ils sont inamovibles face à la mort. Psaume 49, verset 5, pourquoi craindrai-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils ne éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé, le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. D'accord ? Que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en l'honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Voilà l'idée que beaucoup se font en pensant qu'ils ne mourront jamais. D'accord ? C'est pour cela qu'ils s'accrochent à ce monde. Et ils ne veulent pas aller de l'autre côté parce que leur conscience leur dit « Ah là, où tu vis là ?» Tu es sûr que tu vas rencontrer ton créateur dans de meilleures conditions, mais ils font semblant et continuent d'avancer dans le mal, tout en sachant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils vont quitter.
Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Pourquoi vouloir s'accrocher à toutes ces vanités? Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. L'autre Laurent, on va finir bientôt l'émission. Et la sœur finit avec cette parole. Mais moi, toute ma vie, je veux la dépenser pour celui qui m'a tout apporté. Tu sais, ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Mais moi, toute ma vie, je vais la dépenser pour celui qui m'a tout apporté. Qu'est-ce que cela t'inspire?
Oh ben, tu sais, toute rencontre authentique avec le Seigneur Jésus produit toujours dans la vie du disciple la décision de vivre pour le Seigneur. Je vais lire un verset, Romains chapitre 14, verset 8. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, il dit, verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais également à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ouais. Donc, là, on comprend que notre engagement pour le Seigneur n'est pas le produit d'une illusion, c'est une réalité. Donc nous lui appartenons et nous voulons être fermes dans notre résolution. C'est vrai que par moments, Dieu dans sa sagesse peut prendre des décisions qui troublent parfois. D'accord ? Parfois le Seigneur prend à lui son bien-aimé, son enfant, tout en sachant que cet enfant ne tiendra plus longtemps face aux épreuves et à la haine des démons et des méchants. Alors quand cela arrivera, ne soyons pas étonnés ou tristes. Pourquoi ? Maranatha, notre Seigneur vient. Donc, soit que nous allions à lui ou qu'il vienne à nous, sachez que le Seigneur a le dernier mot dans notre vie. Donc, parfois, quand un frère s'en va, quand une sœur s'en va, ça nous choque. Alors que Dieu sait ce qui est devant. Il préfère prendre à lui son enfant plutôt que de le laisser entre les mains de ce monde impie, sale et souillé, gouverné par le prince des ténèbres. Donc, pour nous autres, si nous nous accoquinons avec le monde, comprenez que vous ne pouvez pas prétendre être saint. Parce que la sainteté ne nous est possible que si le Saint-Esprit réside en nous. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. C'est à nous de choisir de vivre une vie sainte. Il ne sert à rien d'être hypocrite. D'accord? Vivons dans la sainteté, et quand le temps viendra, quand nous partirons, ce sera juste une transition. Dans la sainteté ici et dans la gloire de l'autre côté. Mais si nous jouons avec notre vie, et beaucoup peuvent nous prendre pour spirituel, mais quand nous quittons ici, ce ne sera pas dans la gloire. Donc, ce qui vous a touché ici vous accompagnera dans l'autre monde. Si le monde vous touche ici, vous êtes souillé, vous irez dans le lieu où sont ceux qui sont souillés. Mais si Jésus, par son esprit, vous touche et transforme votre vie, vous quitterez ce monde et vous irez directement dans la gloire.
Voilà, chers auditeurs, c'est fini pour, ce nouveau numéro d'Études sur Cantique. Merci d'avoir choisi cette émission. Si le Seigneur tarde à revenir, on se retrouvera le dimanche prochain à la même heure pour un autre chant à étudier. Au revoir et à dimanche prochain. Ce monde ne m'a rien donné, du groupe Jude 25.
À toutes ces vanités,
ce monde.